Merci pour votre accueil. Voilà, bon Noël aussi à chacun. Quand il est question de Noël, cela évoque toutes sortes de choses différentes chez les uns et les autres. Des souvenirs d'enfance, des bons souvenirs, des moins bons peut-être aussi. Et le souvenir de certaines odeurs, de lumière, de sons, de certains mets. Dans la Bible, nous n'avons que deux évangiles sur les quatre qui nous donnent un récit de Noël. Alors pourquoi Marc et Jean n'en parlent-ils pas? Je ne sais pas. Puis Matthieu et Luc, en fait, ces temps de guerre sur cette naissance miraculeuse de Jésus, juste le nécessaire. Et cette sobriété étonnante reflète aussi à elle seule toute l'humilité de ce moment de la famille de Jésus. Il y a tout de même l'intervention de l'ange Gabriel, le messager, l'apparition du cœur des anges, la révélation accordée aux sages venus d'Orient, l'étoile qui apparaît juste pour conduire les mages jusqu'à Jésus, donc, hein, des rêves, des songes accordés par Dieu. Il y a aussi l'action puissante du Saint-Esprit dans le corps de Marie, plusieurs prophéties étonnantes. Ce n'est pas rien. Et pourtant, cela reste très sobre, très humble. Afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans la rue. Il ne cassera pas le roseau abîmé, n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. L'humilité du Seigneur. Le récit de la naissance de Jésus donne déjà tout le ton à sa vie et à toute l'œuvre de celui qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et c'est aussi la caractéristique de l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Les Juifs religieux ont un jour demandé à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Et il leur a répondu « Le royaume ne vient pas en se faisant remarquer. » On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, concernant Noël, la naissance de Jésus, l'imagination populaire aussi a fait le reste. Il y a toutes sortes de traditions qui entourent cet événement. Les bonnes, les mauvaises, voilà, il y a un peu de tout. Mais la question qui habitait mon cœur ces jours était assez simple. Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit de sa naissance? Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit de sa naissance? Quand les bergers contemplaient le bébé dans l'étable, ils ont vu un sauveur qui allait racheter l'humanité. Quand les sages, les mages l'ont observé, ils ont vu un roi qui allait vaincre la mort. Quand les prophètes ont annoncé sa venue, ils ont vu un libérateur qui allait ouvrir les portes des prisons, briser les chaînes, libérer les captifs. Ils ont tous eu une vision de qui Jésus était et pourquoi il était venu. Et Jésus est né dans un monde d'obscurité, d'incrédulité, alors que le peuple de Dieu vivait sous l'emprise terrifiante de l'Empire romain. Les chefs religieux d'Israël n'offraient pas beaucoup d'espoir. Les pharisiens croyaient que le salut pouvait être obtenu à travers les œuvres. Ils ont transformé les lois de Dieu en un système rigide, impossible à satisfaire. De l'autre côté, vous aviez les sadducéens. Eux ne croyaient même pas à la résurrection. Peu de gens avaient la vision d'une existence éternelle. Donc c'était l'obscurité du monde dans lequel Jésus est né. Un jour, je regardais à la maison la crèche de Noël. Et puis les santons que nous avions ressortis pour l'occasion. Toute l'année, ils restent cachés, puis hop, ils sortent. Et une chose m'a interpellé. Les regards de tous les personnages sont tournés vers Jésus. C'est lui le centre de la scène, et lui seul. Et pour beaucoup de gens, L'important, c'est le décor. Mais les bergers, les sages venus d'Orient, Joseph, Marie, l'étoile, les tables, tout cela n'aurait eu aucun sens sans la personne de Jésus. Les bergers auraient pu fêter la venue du Sauveur dans les champs, hein, près de leurs moutons. Après tout, ils étaient bien là autour de leur feu. Les rois mages auraient pu célébrer la naissance du roi nouveau-né dans les fastes de leur palais de Perse. Mais non, ils se sont tous levés, tous, ils se sont mis en route. Ils se sont dit, allons voir ce que Dieu nous a fait connaître. Et ils se sont déplacés pour voir Jésus, pour le connaître, et c'est cela qui importe. Connaître Jésus personnellement, l'avoir rencontré personnellement. Et vous, quand vous regardez les tables, qu'est-ce que vous y voyez? Quand je regarde les tables de la Bethléem, ça peut paraître, peut-être que ça va vous surprendre, quand je vois les tables, je vois la résurrection. Je vois venir la résurrection. On ne peut pas séparer Noël de la résurrection de Jésus. C'est bizarre. Pour la plupart des gens, la résurrection, c'est bon pour Pâques. Mais à Noël, allons donc. Et pourtant, la naissance de l'enfant dans les tables ne peut pas être séparée de l'homme qui donnera sa vie sur la croix. Dieu a un seul et même message pour nous à travers ces deux événements. Quand je regarde dans les tables à Bethléem, je vois le roi Jésus avec ce flot abondant de vie éternelle. Christ était entièrement humain à la naissance. C'était le sang de Marie qui l'avait nourri dans le ventre de sa mère. C'est son lait pendant sa petite enfance. Vrai homme. Mais sa naissance était également une apparition éblouissante de l'éternité. La Bible le dit déjà dans le livre du prophète Ésaïe. Et Matthieu le reprendra dans son évangile. Un verset qu'on aime bien entendre citer à Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette lumière, c'est celle de la vie éternelle. À la naissance de Jésus, la vie fait irruption dans la mort. La lumière fait irruption dans les ténèbres. C'est la puissance de résurrection de Dieu qui se manifeste dans un monde perdu. La possibilité de la résurrection d'entre les morts apparaît à Noël. Osée est l'un de ceux qui a prophétisé sur la venue du Messie. 8 siècles avant Jésus. Et il dit, « Je les libérerai du pouvoir, du séjour des morts. Je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction ?» Quand Jésus est venu, il a accompli cette prophétie. Lui-même a dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc quand Jésus parle de sa naissance, de sa venue sur terre, il parle aussi de la résurrection. En effet, il dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Jésus dit, savez-vous pourquoi je suis ici? Savez-vous pourquoi je suis né dans la pauvreté? Pourquoi les bergers m'ont adoré? Pourquoi les mages m'ont apporté des cadeaux? Pourquoi les anges ont chanté cette nuit-là? Le savez-vous? c'est pour que vous ayez la vie éternelle. Et il n'y a pas de vie éternelle sans résurrection. La résurrection est le fil conducteur de tout le Nouveau Testament. La déclaration de Jésus pointe vers la résurrection. Les tombes s'ouvrent, les morts sont rendus à la vie et l'alliance éternelle de Dieu trouve son plein accomplissement. Si vous regardez les pages des Actes des Apôtres, ou même les épîtres qui suivent, les leaders de la première Église, même déjà à Jérusalem, reconnaissaient la réalité de l'incarnation de Jésus. Dieu s'est fait homme. Mais c'est étonnant, il y a très peu de messages de Noël dans les Actes. Est-ce qu'ils n'en parlaient pas? La prédication des apôtres était centrée sur la résurrection de Jésus. Lors du rassemblement du jour de Pentecôte, Pierre dit « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. » Partout où Paul et les autres apôtres voyageaient, leur prédication dépassait la narration de Noël et du ministère miraculeux, même de Jésus, pendant sa vie, pour aller directement vers la résurrection. Paul et Silas, on dit à chapitre 17, passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, conformément à son habitude, et pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant, en démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » À Athènes, Paul prêche à l'Areopage, c'est un peu le palais fédéral de cette époque. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Quand Paul a dû comparaître devant le gouverneur romain Félix, devant le roi Agrippa aussi, il a également annoncé la résurrection de Jésus. En effet, selon Paul, sans la résurrection, toute notre prédication de l'Évangile est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Ce que Paul dit ici est simple, sans la résurrection, vous pouvez oublier le message de Noël. Pourquoi parler de la naissance de Jésus? Pourquoi être saint? À quoi bon s'occuper des choses spirituelles? Sans la résurrection, nous restons morts dans nos péchés. Et tout ce que nous faisons est inutile. Ce n'est pas juste une vérité théologique abstraite. C'est le point central de toute la foi chrétienne. Et lorsque nous parlons de Noël, nous devons aussi annoncer que Jésus est mort sur cette croix, mais surtout, encore plus encore, qu'il est ressuscité, que la lumière qui vaut d'une dans le monde a vaincu les ténèbres, que la vie qui est venue dans le monde a vaincu la mort, que la sainteté qui est venue dans le monde a vaincu le péché. Jésus est venu nous chercher, toi et moi. Il est né à Bethléem pour ensuite vivre et mourir et ressusciter d'entre les morts. Dès le départ, c'était l'objectif. Et pour que nous ressuscitions avec lui et que nous ayons la vie éternelle. Donc Jésus est venu pour nous emmener chez lui pour toute l'éternité. Tel est le message de l'Église du Nouveau Testament. En réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En d'autres termes, aussi sûrement que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous ressuscitera aussi. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons transformés. En 2 Corinthiens, chapitre 4, il ajoute, « Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. » Quand je regarde les tables, je vois comme un pont. Jésus est le pont entre la terre et le ciel. Il traverse l'abîme de la mort qui sépare la vie temporelle de l'éternité. Et un jour, nous allons traverser ce pont. Et cela aura lieu en un clin d'œil, en un instant. Il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent comment cela sera de l'autre côté. Qui nous y verrons en premier, etc. Il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser sur l'éternité. Je suis convaincu que quand ce moment viendra, nous voudrons tous voir Jésus en tout premier. Il est l'amour incarné, notre sauveur, celui qui nous guérit. Il est notre roi. Ça ne nous empêchera pas non plus de reconnaître aussi ceux que nous avons aimés et qui nous ont précédés dans la présence de Dieu. Ils nous regardent et nous attendent. Dimanche passé, je partageais sur la lettre aux Hébreux, les témoins de la lettre aux Hébreux. J'ai été saisi par cette révélation dans mon cœur, cette nuée de témoins qui nous regardent. Non seulement Jésus est allé nous préparer une place, mais nous y sommes attendus par tous les saints qui nous ont précédés. La Bible dit qu'il n'y a pas de mariage au ciel. Voilà, ceux qui sont récemment mariés, ou qui sont mariés depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y a pas de mariage au ciel. Mais il y a de l'amour, parce que Dieu est amour. Nous serons tous un dans le corps de Christ. Et nous nous reconnaîtrons avec une intuition spirituelle. Les Écritures disent qu'à cet instant, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alors peut-être que vous n'avez pas grandi avec un père ou une mère aimant. Peut-être que personne dans votre famille n'a connu Jésus ou ne vous a jamais montré son précieux amour. Et vous demandez alors, qui sera là pour m'attendre au ciel ? Mais nous avons une autre famille, la famille de Dieu. Je suis convaincu qu'il n'y a personne dans le corps de Christ que quelqu'un n'ait pas porté dans la prière avant même que vous ne connaissiez Jésus. Un homme ou une femme plus âgée, un pasteur, un parent éloigné. Je sais parce que moi aussi je prie pour des gens, des personnes qui ne le savent même pas et qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Et si je venais à mourir avant eux, avant ces personnes, je sais que je les attendrai dans le ciel. Oui, vous serez reconnus, vous serez accueillis avec l'amour familial que Dieu vous a préparé dans l'éternité. Parce que qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire au ciel ? Parce que quand il est parlé de résurrection, ce n'est pas simplement pour être ressuscité puis de s'asseoir sur un siège. Je crois que Dieu a créé des mondes qui restent à conquérir. Ça me rassure, je ne sais pas vous, mais moi ça me rassure de penser que je ne vais pas rester sur mon petit nuage blanc avec ma harpe et ma couronne en or. Gling, 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 gling. Hein ? Les astronomes, ils ont découvert des galaxies. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer, des planètes bien plus grandes que la Terre, ce n'est rien pour le Créateur de ce vaste univers de ressusciter aussi ces créatures de la mort. J'ai entendu l'histoire d'un scientifique athée qui a parcouru les campus universitaires pendant des décennies, des gens quand même qui sont spéciaux, pour donner des conférences sur le fait que Dieu ne peut pas exister. Voilà. Obsédé par la chose. Des années plus tard, cet homme est devenu chrétien. Et quand on lui demandait pourquoi il s'était converti, il a dit, ah, un simple petit mot, l'ADN. Chaque être humain, sous cette étonnante, cette découverte étonnante appelée l'ADN, cet identifiant unique, tellement précis que quelqu'un peut être inculpé d'un crime, même si son ADN, hein, suffit que son ADN, une trace de son ADN soit trouvée sur une, hein, sur un cadavre, sur les lieux d'un crime. L'ADN est complexe, pourtant il peut être extrait à partir de quelque chose d'aussi simple, d'aussi petit qu'un cheveu, qu'une mèche de cheveux, un code génétique avec une infinité d'informations qui liées entre elles sont uniques à ta personne. Qui a créé ce phénomène incroyable qui défie tout bon sens? Qui a connu le code génétique unique de chaque être humain depuis Adam et Ève? Dieu seul. Il compte non seulement le nombre de cheveux sur notre tête, mais il a imprimé notre ADN unique dans chaque mèche de cheveux. C'est ce qui a rendu humble ce scientifique athée, la magnificence d'un créateur et sa création toujours impressionnante. Donc Dieu connaît ton ADN et il sait comment la reconstruire quand il te ressuscitera le dernier jour. Les gens qui pensent que il ne peut pas y avoir de résurrection corporelle pour les personnes qui ont été incinérées. Donc, parce qu'on croit à la résurrection, on ne doit pas se faire incinérer. Ou des gens qui ont eu une mort atroce. Moi, j'ai des ancêtres qui sont morts en pleine mer. Voilà, comment on fait? Comment ils vont faire à la résurrection quand on est bouffé par les poissons? Comme si Dieu ne pouvait pas faire cela. La vérité est que notre imagination ne peut tout simplement pas saisir la gloire de Dieu. Notre cerveau est trop limité. Savons que les corps que Dieu sortira de la tombe seront des corps transformés. Certains pensent que nous serons des esprits, mais la Bible indique clairement que nous serons ressuscités corporellement. Tout ce qui est endommagé, coupé, abîmé par la vie, sera restauré en un clin d'œil. Les gens courbés vont se tenir et marcher debout. Voilà. L'aveugle verra, ceux qui sont infirmes de naissance ou tués dans des guerres seront entiers. Leur ADN sera perfectionné par leur créateur. Noël, la résurrection. La vie en abondance. La vie éternelle. C'est bien plus que le petit Jésus dans une crèche, avec tout le folklore qui va autour. C'est la puissance de vie de Dieu qui se manifeste sur la terre. Quand je pense à la résurrection, je vois aussi des gens tristes et solitaires à Noël. J'ai envie de leur dire, il y a un monde nouveau qui vient. Un monde sans péché, sans pauvreté, ni maladie. C'est pour cela que Jésus est venu. Pour nous emmener dans le nouveau monde qu'il a créé. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Votre roi viendra vous chercher. Entre-temps, la vie de résurrection est déjà disponible pour nous, dans cette vie. Vous savez, je rencontre trop souvent, j'en parlais encore avec mon beau-frère au téléphone qui habite en Floride hier, mais on rencontre tellement souvent de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne au rabais. Toute petite vie chrétienne, mais tu es un enfant de Dieu, du Créateur du ciel et de la terre. Tu es un enfant du Père éternel. Ton Père, c'est le Dieu qui a créé tout l'univers. C'est juste magnifique. Et tu es détenteur, tu es l'héritier des plus merveilleuses promesses qui existent. Mais c'est rien encore. Tu as reçu la vie divine, la vie éternelle. C'est une qualité de vie extraordinaire. Le ciel t'est ouvert. La présence de Dieu t'est ouverte. Tu peux avoir accès à ce Dieu-là en tout temps, indépendamment de tout ce qui dans ta vie peut encore aller de travers, tu peux aller vers lui et trouver auprès de lui non seulement la délivrance, le secours, la réponse, la direction, mais surtout tu peux jouir de sa présence. Je ne sais pas comment vous êtes venu ce matin ici, ou comment vous venez d'habitude ici. Ah, c'est vrai, le mot habitude est bien là, même Paul ou Jésus allaient d'habitude à la synagogue le samedi, mais pourquoi viens-tu? Qu'est-ce qui habite ton cœur? Qu'est-ce qui... J'espère qu'il ne va pas prendre feu. Hein. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui habite ton cœur quand toutes tes journées, le matin? Ce qui va faire la différence dans ta vie, ce qui va faire la différence dans cette assemblée, c'est quand ce qui habite ton cœur, c'est le désir de plaire à ton Seigneur, de réjouir son cœur, de lui faire plaisir, qu'il puisse être simplement, qu'il puisse dire, oui, je trouve tout mon plaisir en toi. C'est ça la venue de Jésus sur terre, un homme à qui Dieu a pu dire, je trouve tout mon plaisir en lui. Et c'est le chemin que Dieu désire que nous puissions emprunter, que nous puissions suivre ce Jésus qui réjouit le cœur du Père. C'est ça qui va faire la différence de ta vie. C'est cette vie-là que Jésus est venu apporter à Noël. Une vie qui réjouit le cœur de Dieu. La vie de résurrection est disponible pour nous aujourd'hui. Dans Romains chapitre 6, nous avons cette promesse merveilleuse. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Tu n'as plus besoin de continuer à vivre avec le péché qui t'a tenu toute ta vie jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Fini de devoir toujours revenir vers le Seigneur. Seigneur, pardon, pardon, je demande pardon. Et puis de recommencer le lendemain. Fini. Tu peux vivre une vie nouvelle. Et ça, c'est le message de Noël. La délivrance du pouvoir des ténèbres. Dans cette période de Noël, il est important de garder un mode de pensée axé sur la résurrection. Paul dit, « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Encore, encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. » Voilà, notre temps sur terre, il est court, mais nous avons la vie éternelle si nous croyons en Jésus. Je sais que ce jour-là, moi, je sais pas, vous y pensez à l'éternité, vous y pensez à la résurrection. Je sais que ce jour-là, je vais rencontrer tous ceux que j'ai pu amener à Jésus. Ça va être la fête. Ça va être le bonheur. Ah, tu es là. Quel bonheur. Quel bonheur. Et puis, je verrai aussi les membres de ma famille qui sont déjà partis avec Jésus. Là aussi, je me réjouis. Quelle joie ce sera, la résurrection. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Lorsque ce corps corruptible qu'est le nôtre aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. Et on revient à la prophétie d'Osée sur la venue du Messie. La victoire sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, soyez fermes, Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu, perçu Noël comme l'irruption de la puissance de résurrection dans ce monde. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'aimerais que nous puissions prier maintenant ensemble. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie chrétienne. Si tu en es au balbutiement, si tu en es, en pleine forme, si tu es dans une zone d'ombre, si ça s'étiole, si ça a perdu sa saveur, sa vigueur. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus, le ressuscité, est au milieu de nous ce matin. Et il désire toucher ta vie. Seigneur Jésus, merci pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans ces lieux et dans chacune de nos vies. Et je proclame la puissance de résurrection dans la vie de mes bien-aimés. Je proclame la puissance de résurrection dans ce lieu, dans cette ville, dans tout ce pays. Je proclame que tu es le ressuscité. Tu es celui qui est venu pour vaincre les ténèbres et la mort. Tu es celui qui est venu pour vaincre toute l'œuvre, détruire toute l'œuvre de Satan. Tu es venu, tu as paru, Seigneur Jésus, pour détruire l'œuvre du diable. Et Seigneur, je le proclame en cette journée, cette veille de Noël. Seigneur, je proclame que tu es venu pour délivrer, pour sauver parfaitement tous ceux qui se confient en toi. Et je te confie mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ce matin. Tu connais chaque situation, chaque cœur. Tu vois les combats que les uns et les autres mènent. Tu vois, Seigneur Jésus, ces défaites aussi pour certains. Ceux qui retombent sans arrêt. Je te demande, Seigneur, ta grâce sur leur vie. Et que tu te manifestes maintenant dans leur cœur. Viens te révéler. Viens te révéler, Seigneur Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie qu'alors que nous célébrons avec tellement de tes enfants sur la planète, Seigneur, le jour de ta naissance, Seigneur, nous voulons simplement nous rappeler que tu es venu apporter la vie et la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.